Ben. Dans cette édition, on ira au CESEC où les conseillers ont parlé des violences intrafamiliales. On reviendra sur cette question des pêcheurs et armateurs hauturiers sur l'influence des ONG conservationnistes. Et pour terminer, cette nouvelle, le meilleur pastis du monde est haïtien. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence par aller au CESEC où les violences intrafamiliales étaient au centre des débats.
Oui, des violences intrafamiliales qui ont fait l'objet d'une auto-saisine du CESEC, de dizaines d'auditions ces dernières semaines, d'un rapport de 50 pages détaillé ce matin et de plus de 3 heures de débat. Charles Irénée, bonjour, vous êtes sur place.
Oui, bonjour Lucie. La séance vient d'être levée au CESEC. Elle a été animée et même émotive. Les violences intrafamiliales ne sont pas seulement des statistiques et des procédures, ce sont des vies brisées, a précisé d'entrée la présidente Mayana Bambridge, rappelant que ce travail est présenté un peu plus d'un an après le drame d'Aiden à Tahiti, alors que la métropole est encore sous le choc du meurtre de la petite Liana. Les chiffres locaux ont été rappelés, ils sont alarmants. 1500 femmes victimes de violences délictuelles ou criminelles chaque année au Fénois, une prévalence 50% plus forte qu'en métropole, s'ajoutent 2300 enfants qui font l'objet d'une mesure de protection, là aussi près de deux fois le taux de la métropole, et cette année-là que la partie émergée de l'iceberg, comme l'ont rappelé les conseillers, la loi du Mamou, l'omerta sur les violences intrafamiliales, existe toujours en Polynésie. Le rapport appelle donc les autorités et la société à une mobilisation forte et surtout à une mise en cohérence de la réponse publique. L'ambition est de passer d'une logique fragmentée et réactive à une politique anticipatrice et structurée, dit-on dans le document, qui demande l'élaboration d'un réel code de l'action sanitaire et sociale, d'un plan de lutte contre les violences infantiles, lancement d'un observatoire de l'enfance aussi, et puis des échanges facilités entre justice et services sociaux. Il s'agit de soutenir à la fois les acteurs associatifs comme l'UAPED ou les foyers d'urgence, de renforcer la sensibilisation dès le premier degré, donner plus de capacité d'intervention aux acteurs publics socio-éducatifs. Le CESEC propose aussi une ligne VIP, VIP pour violences intrafamiliales, 24 heures sur 24 pour joindre ce genre d'acteurs spécialisés. Ce que demande aussi les forces de l'ordre, souvent désemparées lors des interventions en pleine nuit, demandent aussi un centre d'hébergement pour les auteurs de violences qui doivent être éloignés de leur famille et des aides financières plus complètes pour les victimes. Bref, beaucoup de pistes d'amélioration pour un CESEC qui constate que tous les efforts fournis par les autorités butent sur un manque de clarté sur les compétences et les missions de chacun. La vice-présidente Nina Rigalnon, en charge de la famille et des solidarités, était présente. Elle a assuré en réponse que beaucoup de ces actions étaient lancées et qu'il ne fallait pas s'auto-mutiler, je cite, comparant la situation en Polynésie à celle des autres pays de la région qui serait bien pire. Pas sûr que ce discours ait convaincu beaucoup de conseillers qui ont appelé de nouveau en fin de séance le pays à réagir, à se mobiliser contre ces violences intrafamiliales, Lucie.
Merci beaucoup Charles Irénée. Voilà une auto-saisine donc du CESEC sur les violences intrafamiliales. Vous retrouverez bien sûr tous ces détails sur notre site radio1.pf.
Et on continue avec le schéma d'organisation sanitaire adopté à l'unanimité en commission de la santé et des solidarités de l'Assemblée, c'était lundi.
Oui, il a fallu de longues heures de débat et beaucoup d'explications de la ministre pour convaincre les élus. Après l'avis défavorable du CESEC en décembre 2025 et une première réunion d'information avec des élus de l'Assemblée, le gouvernement a revu sa copie, présenté un schéma d'organisation sanitaire 2026-2030 plus précis. La ministre de la Santé et des Solidarités a assuré, je cite, avoir apporté toutes les précisions pour rassurer les représentants des élus qui avaient pointé l'absence de chiffres et de calendrier, qui ont continué à interpeller la ministre sur les problèmes dans le secteur de la santé. De longues heures de débat donc ont été nécessaires.
Les questions qui ont été les plus récurrentes ont été sur le calendrier et le chiffrage, mais également sur les sujets qui sont d'actualité, comme la santé mentale, les addictions, le cancer. Voilà, donc des précisions ont été demandées par les élus sur le temps de lancement et de déploiement de ces actions, mais également sur les budgets qui ont été affiliés. Donc nous avons pu apporter toutes les précisions pour justement rassurer.
Voilà, les questions financières seront sûrement rediscutées lors de la séance plénière par laquelle le SOS doit maintenant passer pour être adopté. Surtout que le gouvernement précise dans sa présentation que, je cite, « donner un coût global au SOS est inadapté et qu'il est impossible d'anticiper certains coûts à 5 ans ». Mais la ministre Rei-Ei Ansker promet du concret plus tard, avec notamment la présentation de 4 plans opérationnels qui doivent découler de ce nouveau schéma d'organisation sanitaire. On l'écoute.
Je rappelle que c'est un plan termes d'orientation, avec des budgets qui sont votés de manière annuelle par l'Assemblée. Donc on va dire que c'est un schéma dont découlera après 4 plans opérationnels, à savoir le plan de prévention, le plan de santé mentale, le plan de santé globale et le plan cancer.
Voilà, la ministre interrogée donc par Alexandra Perini à la sortie de la commission de l'Assemblée hier soir.
Autre sujet qui fait débat, les 500 000 km² d'air marine protégée.
Une décision du gouvernement, une annonce de ce week-end dont on a déjà beaucoup parlé et qui ne plaît pas beaucoup aux armateurs, capitaines et marins hauturiers. Vous l'avez entendu, 500 000 km² protégés donc aux Marquises et aux Australes, et des pêcheurs qui voient dans les décisions du gouvernement l'influence d'organisations internationales conservationnistes. Pas d'accusation directe et aucun nom d'organisation dans la bouche des pêcheurs hier en conférence de presse, mais des sous-entendus qui visaient clairement le témoignage collectif, une organisation qui réunit notamment Pew Bertarelli, Blue Nature ou le Bezos Earth Fund et qui a formé un partenariat à 15 millions de dollars avec le pays. 1,5 milliard de francs pour 1 600 000 km² protégés. Vatea Mouari invite à faire le calcul du prix auquel on a vendu notre souveraineté, ce sont ses mots.
On considère que oui, il y a une certaine forme d'ingérence, que ces ONG peuvent phagocyter des tissus administratifs administratifs, associatifs, tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, ils ont une influence qui va du coup orienter certaines décisions. Et on estime qu'aujourd'hui, ces décisions elles vont à l'encontre des intérêts de la filière et des Polynésiens d'une manière générale.
Et le président de l'association des armateurs hauturiers, Yan Ching, est bien d'accord, on l'écoute.
Ces décisions-là, ça impacte toute la filière et ça impacte les emplois qui sont derrière. On représente plus de 2000 emplois, voire même encore plus. Et aujourd'hui, c'est tous ces emplois-là qui sont menacés, c'est les familles qui sont derrière qui sont menacées. Et au nom de quoi? Au nom de qui en fait? Pour qui? Et on sacrifie la population polynésienne, on ne sait pas pour qui.
Et ce ne sont pas les premiers à critiquer ces ONG internationales qui encouragent de fortes mesures de conservation loin de leur pays d'origine. L'ancien ministre de l'Environnement, Eremoana Maamatuya Hutapu, avait parlé de comportement colonialiste, un mot repris par des chercheurs qui parlaient, eux, de colonialisme bleu. Les discussions sur cette question se poursuivront à Talaoï, où les représentants devront voter sur la création de ces deux nouvelles zones protégées.
Allez, un petit verre pour finir ce journal avec le meilleur pastis du monde.
Qui est tahitien. Gros coup dur pour les Marseillais. Élaboré par la distillerie Veve de Taha, le Tahitian Pastis a remporté le titre de meilleur pastis du monde lors des World Drinks Awards début juin à Londres. Une reconnaissance prestigieuse pour cette création 100% polynésienne. Son créateur, Olivier Duret, est à la tête de la distillerie Veve, a fait 80 essais différents avant de pouvoir trouver le goût unique du Tahitian Pastis.
Globalement, c'est fait à partir d'arômes mélangés. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre alcool de canne à sucre bio, donc on est déjà sur une base de rhum, et puis ensuite, dedans, on va mettre uniquement des plantes qu'on importe, hein, parce que les plantes anisées ne poussent pas ici, la badiane, donc l'anis étoilé, le fenouil, l'anis vert, un peu de réglisse, un petit peu de cannelle. Cannelle, on sait qu'on en aura bientôt localement de certifié bio, donc évidemment, la cannelle deviendra bio immédiatement, enfin bio, elle deviendra locale surtout, et on va utiliser donc ces 5 aromates qu'on va redistiller avec le rhum. Donc c'est pas des arômes qu'on mélange, c'est des plantes qu'on distille. Et donc ça donne une richesse aromatique tout à fait différente.
Pas de colorant, pas de conservateur, tout est naturel. La distillerie reste encore méconnue, la distillerie Veve donc, même si elle a déjà reçu une médaille d'or lors d'un autre concours international pour son gin. Mais voilà, peut-être que maintenant ça va changer.
Globalement, aujourd'hui, on est une distillerie, on fait à peu près 10 000 bouteilles par an, c'est notre volume habituel. On espère aussi que ce concours nous aide à nous développer. Et voilà, on continue à planter de la canne à sucre parce qu'il nous faut de la matière première de base, hein, pour faire tout ça. Et puis on a noué des partenariats avec des entreprises françaises, principalement pour les graines, des herboristes très pointus, parce qu'il faut aussi des bonnes plantes pour faire des bons produits.
Les amateurs de pastis peuvent se rendre à la distillerie et sa petite boutique à Taha. Olivier Duret organise régulièrement des visites et il est aussi possible de goûter à ce meilleur pastis du monde à Arroué, au bar Mataveil, où d'ailleurs toutes les créations d'Olivier Duret sont à la carte. Et attention, bien sûr, tout ça avec modération. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, voici la météo sur